découvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Deuxième épisode. L'avorté. Je me retrouvais atrophiée, démesurément gonflée de l'intérieur. Mes yeux avaient tout envahi. Par ces deux plaies béantes, je n'étais plus qu'un regard unique, n'ayant d'autre possibilité que de fermer les paupières ou de les entrouvrir, au choix. La plupart du temps, elles étaient entrouvertes, deux puits sans fond où le monde basculait en jouant de l'épine. La neige avait perdu ses alibis d'hiver et s'était retrouvée à contre-temps sous ce premier soleil d'avril. Je suis tombée de la dernière neige d'avril. Elle avait besoin qu'on la justifie. Ça m'est égal de servir de justification à la neige. Ces flocons m'avaient peu à peu entraînée à leur suite dans l'arabesque chaud de l'ensevelissement. J'étais perce-neige et j'appris la couleur de la neige, sa substance, sa chaleur, sa magie, son arôme. Je ne pouvais plus m'en passer. La neige est le lot de tout avorton, les limbes dont on nous parlait à l'école, cet espace ouateux comme du flissi. Il y avait là l'écho ténu des sons qui se transmettent dans les fonds abyssaux. C'est ainsi que l'information arrive de l'extérieur, se change en flocons, se cristallise et repose les dents serrées jusqu'au premier cri. J'étais donc devenue un regard, un œil total, globuleux, où les facettes cycloramiques de la mouche me permettaient d'être autour et à la fois dedans. De la mouche, je n'avais pas les ventouses. Dommage, elles auraient pu me servir. J'étais ventouse, cependant, sans m'en douter, comme seul un œil peut l'être quand il se colle à une fenêtre, à toutes les fenêtres, en chair ou en papier, en vitre, avec ou sans givre, avec ou sans lune. C'est l'hiver que les yeux se crèvent le mieux, quand les fenêtres se hérissent et deviennent des orties travesties en aiguilles, le ghetto blanc de la neige endurci. Un anneau de chair vive m'en serrait déjà l'œil. Il ne suffisait que d'une mince couche de vitriol sur un carreau et la ventouse se mit à hurler. Je n'ouvris pas les yeux, la bouche toujours ouverte, tordue sous le viol du cri. J'enfilais ma camisole de force pour être à la mesure de l'impossible. C'étaient de grandes œillères de cuir brut. Elles m'étaient ajustées. Personne d'autre que moi n'aurait pu les enfiler avec cette facilité du geste. Elle m'était due. La peau de la bête avait dû être si épaisse que même l'œuvre du vent et de l'eau de pluie, souvent corrosive, ne semblait pas les avoir abîmées. Mes œillères me couvraient entièrement, parallèlement, deux trottoirs encadrant l'avenue. Pas un fil de regard ne pouvait traverser. Je ne pouvais plus bouger. Il ne fallait plus bouger. Les lanières averties m'auraient lacéré sans pitié. Je pouvais ainsi me calmer, m'enfouir le cœur au chaud, le comprimer, l'empêcher de battre des rythmes sud-américains. Le grand creux de femme d'où je suis venue s'étant refermé, il a fallu me faire sécher, puisque j'avais encore sur moi l'aspect gluant que prend la vie dans sa forme première. La première goutte qui tombe surprend, la seconde glisse sur la face et toutes les autres ensuite qui tombent creusent l'éponge, comme toutes les plus expérimentées. Ensuite, j'ai séché pendant longtemps, un peu comme les vers sur les trottoirs en absence de pluie, en forme de point d'interrogation. Les vers ne sèchent que pour mieux craquer sous le pied du passant, et le pied du passant apprend le geste de répulsion calculé, celui qui tente d'éviter le piège contenu dans le cadavre du ver. Voilà qu'il me faut faire des bulles maintenant, de grandes bulles transparentes qui s'arrondissent autour de ma bouche et contiennent mes monologues. Voilà qu'il me faut les orchestrer, lire les bulles des autres et faire attention à tout ce qui peut les éventrer et en faire couler le sens. Mais il y a tellement de hérissons. Déjà que les yeux s'en arrachent à peine. J'ai vu mon père nu pour la première fois quand j'ai lu le rapport de son autopsie. Avez-vous vu mon enfance quelque part ? Autoportrait de clown. On croit qu'un clown sait tout. C'est faux. Il se déguise et parle très fort pour être certain d'être bien vu afin que quelqu'un, n'importe qui, lui montre le chemin qu'il ne trouve jamais. Ou encore, il prend de lui-même un chemin mais ce n'est jamais le bon chemin. Sa tête est une linotte. Il faut toujours quelqu'un pour le ramener in extremis avant qu'il ne tombe dans le ravin. Un clown ne sait rien. C'est terrifiant. Il a besoin d'une armée de personnes qui savent quoi faire autour de lui pour ne pas mourir. On croit qu'un clown est un sage qui sait rire. C'est faux. Il ne sait rien. Il se met la tête dans un seau pour boire comme un animal et il reçoit une trompe d'eau sur son cul rebondi, du plafond ou de la main d'un autre clown caché. Il se demandera toujours pourquoi il ne peut jamais boire tranquille si personne ne lui dit le truc. Un clown se promène toute sa vie avec une tarte à la crème dans son plastron en surveillant les amateurs de sucreries à qui il a donné. Mais la tarte se retrouve toujours contre lui. En plus, ce n'est même pas une vraie tarte, c'est de la crème à barbe. Il se dit, sans savoir jamais ce qu'il dit, il répète tel est prix qu'il croyait prendre. Et il recommence. On croit qu'un clown fait des choses drôles. C'est faux. Il refait les mêmes choses. Il pile dans les mêmes pilasses laissées par ses gros pieds de clown, comme la langue dans la bouche, dans le « Gloire au Père » ou le « Je vous salue Marie ». La bouche sait, le clown ne sait pas. Il est loin de sa bouche. Elle est toujours pleine de mots pour faire rire les autres que lui. Il n'a pas de place. Sa bouche l'envoie à la chasse aux mots comiques. Un clown cherche beaucoup, mais ne trouve rien. Il ne ramène jamais rien de sa chasse. Sa bouche l'engueule et c'est ça qui fait rire. C'est un vrai sans-abri. Un vrai de vrai. Il se fait cracher dessus par sa grosse bouche rouge qui lui a déjà mangé tout le visage et il n'a qu'un parapluie ridicule dont il ne reste que quelques baleines, à peine de quoi le protéger. Quand il se fait mouiller par les crachats, il croit que ce sont les baleines qui lui ont soufflé de l'eau par leurs évents. Un clown ne sait même pas qu'un vrai parapluie doit être fait d'une bonne toile solide, de couleur vive, pour mimer le soleil. Un clown ne sait rien. C'est dramatique. Dès sa naissance, elle a épousé étroitement un clown de carrière et maintenant elle doit s'en occuper pour le reste de sa vie. Sans le dire à personne parce qu'elle s'est cachée. Elle a hâte qu'il meure. Il lui prend tout son temps, comme un enfant, alors que justement, elle n'a pas voulu faire d'enfant. Elle n'a pas assez de tout son temps pour comprendre. Elle n'aurait pas su expliquer à des plus petits comment la vie fonctionne. Parfois, elle se dit qu'elle aurait quand même dû faire un enfant. Elle aurait pu se sauver avec lui, loin du clown. Mais elle avait craint la difformité dans le croisement avec le clown. Elle est tenue captive. Pour gagner son salut, après tout, nous sommes tous là pour ça, elle a ouvert une agence de spectacle pour faire travailler son clown et le tenir loin de la maison. Elle paye quelqu'un pour l'accompagner et elle fait beaucoup d'argent, parce que les gens qui ne vivent pas avec les clowns les adorent. Quand il est en tournée, elle dort de toutes ses forces. Mais quand elle se réveille un peu, elle a juste le temps de se dire que, sans lui, elle est morte. Parfois, elle arrive à se rendormir. Autrement, elle prend un cachet et elle attend qu'il revienne.
Parce qu'elle raconte, je crois, dans une de ses chroniques, mon père à moi, qui était une très belle chronique, elle était le fils de son père jusqu'à temps que son petit frère naisse. Alors lui, parce qu'elle, elle allait chasser, puis elle faisait des affaires avec son père, puis elle adorait son père. Mais elle n'en a pas voulu à son frère, quand même, à son petit frère. Mais je pense que, oui, il y a une histoire.
Portrait avec médisance. Il paraît que sa mère portait des bagues tellement grosses qu'on ne lui a jamais vu le visage. Le croiriez-vous ? Elle a de qui tenir. Elle se cache, elle aussi. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais elle fait de la cellulite jusque sur le front. Oui, oui. Percluse, on dit. Percluse de cellulite. Dramatique, non ? On ne lui a pas vu froncer les sourcils depuis au moins 2 ans. Comment voulez-vous qu'on sache ce qu'elle pense ? Impossible. Impassible. si jeune. Si au moins elle portait une frange, ça se verrait moins. Son mari l'a quittée d'ailleurs, le pauvre. Il n'a pas eu de mal à trouver mieux ailleurs. Comment voulez-vous vivre avec une femme dissimulée à la journée longue, impensable ? Elle ne sait même pas glousser. Que voulez-vous qu'un homme fasse avec une femme qui ne sait pas glousser ? Je vous le demande. Que voulez-vous que je vous dise ? Il était complètement dérouté. A-t-on idée de ne pas savoir minauder à son âge ? C'est un bohème. Un Roger Bontemps, comme disait ma propre mère. Son père l'a traîné partout avec lui jusqu'à au moins 14 ans. Elle avait des seins qui la traînaient encore. À la chasse, à la pêche, dans les quincailleries. Oui, oui, comme je vous dis, dans les quincailleries, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, il paraît qu'elle a des tendances. Vous voyez ce que je veux dire ? À traîner comme ça dans les quincailleries, on se demande ce qui lui a pris de se marier. Pour sauver la face, je suppose. Je comprends qu'elle n'ait pas eu d'enfant. Tout ça, c'est une question d'hormones. Ils l'ont dit l'autre jour à la radio. Les hormones femelles provoquent l'attirance pour les robes et les cosmétiques, et les hormones mâles pour les pantalons et les quincailleries. Ça se tient, tout ça. L'avez-vous déjà vue avec une robe sur le dos ? Même à son mariage, elle était en pantalon, noir, par-dessus le marché. Ceux qui avaient à comprendre ont compris à ce moment-là. Moi, il y avait longtemps que je le disais. On n'a pas idée d'être comme elle est. C'est une hystérique du dernier stade. Avez-vous entendu son rire ? Une avalanche avec de l'écho, du tonnerre et des ultrasons. Oui, 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 des ultrasons, puisque je vous le dis. Il paraît que depuis la dernière fois qu'elle y a ri, on n'a plus revu de clients dans le restaurant en face de chez elle. Ils ont été obligés de fermer. C'est honteux. Des oiseaux ont été pulvérisés en plein vol par son rire. Certainement, il y a eu des témoins. Pour moi, elle a le mauvais œil. Avez-vous vu son œil ? L'avez-vous vu ? Une arme redoutable. Et elle s'en sert sans permis de port. Elle s'affiche, c'est scandaleux. On devrait interdire de porter certaines sortes de regards. Moi, je serais radicale. On interdit bien les jeans dans les discothèques ou on oblige les cravates dans certains restaurants. Qu'on oblige ou qu'on interdise, il y a toujours quelque chose d'interdit, non ? Bon, voilà. C'est simple pourtant. Tout irait tellement mieux dans le monde. Elle nous vrille avec ses yeux. Quelle sensation désagréable de se sentir vrillée. Je déteste ça, vraiment. Après, on dirait qu'on ne sait plus comment agir. Quand je vais au magasin où elle travaille, j'évite toujours son comptoir. Mais si par malheur, elle me regarde, je ne sais même plus ce que j'étais venue y chercher. Elle me donne de l'amnésie. J'y pense et j'en ai froid dans le dos. Elle pose trop de questions. D'accord, elle ne parle jamais, mais ça ne l'empêche pas de poser trop de questions. Ça n'est pas incompatible. Je connais des gens qui n'arrêtent jamais de jacasser et qui ne posent jamais la moindre question. Alors le contraire peut être vrai. Non, mais regardez-la. On dirait qu'elle est encore plus vivante que tout le monde ici. Il faut toujours qu'elle se distingue. Heureusement qu'on a réussi à lui fermer les yeux une fois pour toutes. C'est-à-dire que quand on l'a retrouvée, elle se les était déjà fermées elle-même. Elle n'a besoin de personne. Elle n'a jamais eu besoin de personne. Elle est tellement réfractaire et coriace à tout. Croyez-vous que les vers, eux, en viendront à bout ? Ma planète. Ma planète est une pomme. J'en mange les parois quand j'ai envie d'un fruit. Mes bouchées forment des tunnels et les tunnels des labyrinthes qui émergent en fenêtres ouvertes. Quand ma pomme a trop de fenêtres, je déménage. À bien y penser, je suis peut-être un ver.
C'était vraiment un phare pour nous tous, hein, Hélène. Tout le travail qu'elle a fait avec notamment Hélène David, c'est la première qui nous a conscientisé à un écoféminisme, notamment en défendant la protection des ressources en eau au Québec. C'est la première. Elle a été précurseur de beaucoup de mouvements de pensée qui ont été ensuite repris et on oublie ou on ne sait pas que la première qui en parlait à travers ses chroniques, à travers son indignation. Il était une personne indignée et c'était magnifique. C'était une tellement belle indignation.
La pomme. Je suis tombée du haut d'une pomme. Elle avait la rondeur d'un dos de chat griffe sortie, d'une joue à la pommette haute. Je suis tombée du haut d'une pomme et je me suis brisée les os autour du cœur. J'y étais montée pour voir dedans. Elle était belle. Ses deux moitiés étaient des toux. Elle m'emplissait la vue de sa peau en miroir. J'avais toujours envie de croquer dedans. Quand je m'approchais, vorace, je m'y voyais si exactement que c'était moi que je m'apprêtais à croquer. Je rentrais mon envie. Je passais beaucoup de temps à la polir. Le matin, enflée de sommeil, elle avait la forme paresseuse. Mais elle avait tant de couleurs en réserve qu'elle s'en couvrait aussitôt pour effacer la nuit lécheuse. Elle était imprévisible. Le matin de mon accident, elle se prenait pour le soleil. Elle luisait plus que de coutume. C'était un matin où le soleil d'avant l'aurore est une main sinueuse qui tasse le sommeil doucement pour installer le frisson. Comme s'il fallait toujours rester ainsi, le sommeil en allé mais les paupières closes, à frissonner du jeu de la main qui caresse. Ne pas s'en apercevoir, laisser le frisson prendre toute la place que le sommeil prenait l'instant d'avant. Ne rien dire, écouter le souffle, ouvrir les yeux, tourner la tête et manger de l'œil ce visage si près. Prendre ce visage dans ses mains et tomber. Tomber. Elle connaissait toutes mes faiblesses. Je suis montée lentement, en prenant garde de ne pas les rafler jusqu'à son cou de volcan. Je me suis penchée pour regarder dedans, puis plus rien. Je me suis retrouvée tout au fond, rompue. Si je la ronge de l'intérieur pour me nourrir et creuser un tunnel, elle meurt. Si je ne la ronge pas, j'étouffe et je meurs de faim. Inutile de crier, personne ne m'entendrait. C'est elle ou moi. Faut-il être bête pour se buter ainsi à des choix aussi déchirants ? Faut-il être bête ? Entre ta peau et la mienne, je choisis les deux. Portrait avec Vilebrequin. Depuis sa naissance, elle n'avait jamais eu le tourbillon aussi fatigué. Peut-être un léger étourdissement vu le mouvement emporté et circulaire du tourbillon. Toujours est-il qu'elle en avait baragouiné des mots. Toujours est-il que ses phrases perdaient parfois l'équilibre et qu'elle mettait des heures et des centaines de mots à en retrouver le fil constructeur. Jongler est un art difficile. Surtout que c'est facile de lui faire perdre pied et de savoir, noir sur blanc, que c'est une douce qui s'est fabriquée une cachette dans une tornade. Élémentaire. La ficelle est grosse comme un cordage. Des tas de prestidigitateurs sont capables de faire beaucoup mieux qu'elle. Par exemple, faire disparaître l'Empire State Building dans un sous-noir ou vider le Pacifique sans en oublier une seule goutte dans un dé à coudre. Exagération ? Non. Puissance de l'illusion. Réalité. Une question d'adresse et de bonne digestion. Elle est maladroite. D'ailleurs, elle n'a jamais voulu devenir illusionniste, ça crève les yeux. Sinon, elle ne serait pas devenue un tourbillon Vilebrequin qui perce les écorces et déconnecte les circuits. Première règle. Pour devenir une saboteuse de certitude, il faut en avoir très peu soi-même. Deuxième règle. Il faut savoir reconnaître un robot d'un humain. Et de là, apprendre à remplacer subtilement tous les programmes par de la chair. Ces deux règles sont absolument nécessaires à tout rachat de liberté. C'est écrit en toutes lettres dans le contrat qu'elle vient de signer entre elle et elle-même. C'est un des contrats les plus fabuleux jamais signés dans son monde entier. Exagération ? Non. Puissance de la réalité. Illusion. Une question d'adresse et de haute diplomatie. Quand je vous aurais dit qu'elle n'a qu'une oreille, mais que c'est la troisième et la bonne, vous croirez qu'elle sort d'une peinture abstraite. Pas du tout. Elle flirte plutôt avec Renoir en ce moment. Elle a un beau corps qu'elle a décidé d'effacer pour un temps sous des rondeurs suspectes. Elle n'aimait pas qu'on la regarde. Quand elle était plus jeune, du temps qu'elle était bombe, elle savait courir comme un cheval à cause des jambes de son grand-père, son seul héritage. Elle en a gardé la fougue et l'envie de ruer dans les brancards. Et grâce au ciel, il ne s'annonce aucune pénurie de brancards. C'est une grande collectionneuse de pieds dans les plats, toutes les grandeurs de pieds et de plats. Une oublieuse, une chanteuse qui a raison de s'ignorer, une bombe qui renonce à être une bombe plutôt que de tuer une mouche. Une extravagante. N'y touchez pas, j'y tiens. Histoire d'amour. La mer, elle est bleue, le ciel aussi. Après une rencontre au sommet de l'horizon, elle et il ont décidé de s'échanger des teintes entre voisins pour tromper les peintres du dimanche et ceux du reste de la semaine aussi. Faut dire la vérité, elle et il s'ennuyaient d'être si majestueux. La mer voulait être un poisson rouge et nager dans un bocal. Le ciel voulait être un oiseau et dormir dans un tout petit nid, tous les deux sous la nageoire ou l'aile d'une mer chaude. Elle et il se sont mariés, obligés, à côté qu'ils étaient depuis des millénaires. Un indiscret a osé en faire une chanson. Il n'y a plus d'intimité.
C'est ça qui est un peu triste, parce que les plus jeunes ne connaissent pas Hélène Pedneault, parce que, tu sais, l'œuvre, elle n'a pas écrit 75 affaires non plus, là. Alors, c'est une génération qui a connu Hélène, qui l'a suivie à la radio, à la télé, dans les rassemblements. Mais il reste quelques livres, puis le reste, pourtant, elle a pris la parole sur tellement de sujets. Elle a fait des chroniques à la radio, elle en a fait à la télé, elle a... Et il n'y a presque pas de traces de ça. C'est vrai?
Portrait avec fleuve. Elle porte un nom d'oiseau dont elle a gardé la huppe, qu'elle peigne avec ses mains pour se donner un mouvement d'aile. À cause de sa généalogie, elle migre partout où il y a un pays. Elle circule en fleuve qui ne cherche que la mer. Aussi, beaucoup de gens qui ne l'aperçoivent qu'en passant pensent que c'est une femme du dehors. Elle a toujours l'air de flotter sur un courant invisible qui la porte. Son embouchure est enfouie au fond d'une ruelle, dans une ville encerclée par un fleuve. Ce n'est pas un hasard de naissance, femme ou fleuve, elle est une affluente. Entre deux départs, elle fait les trottoirs. C'est une femme itinérante, tête en l'air. Elle lit les murs d'une affiche à l'autre. Au passage, elle lit la vie des gens dans les poubelles, la vie que les gens jettent, la lit de la vie des gens. Elle aime la littérature. Il lui arrive de rapporter chez elle des chapitres de ses vies trouvées, paniers ou assiettes. Elle trouve de tout dans la vie des gens. Ensuite, elle monte de gros bateaux qui mouillent un moment dans sa vie avant de prendre le large. Elle leur sert de quai. Elle déverse des conteneurs de métaphores sur la ville avant de repartir en quête de nouvelles images. Elle fabule et affabule. Aussi, beaucoup de gens qui ne l'aperçoivent qu'en passant ne savent pas qu'elle est une femme du dedans. Elle passe si vite. Si on prend rendez-vous avec sa valise, on est sûr qu'elle viendra. Elle ne se quitte pas. Elle est une antiquaire qui déteste les vases clos. Elle vit demain, mais elle est partie hier. Elle parle aujourd'hui, mais elle se tait tout le temps. Sa notion de temps lui vient directement d'Einstein, sans passer par la science, dans une sorte de legs occulte qui doit venir du fait qu'elle est principalement en décalage dans sa vie. Sa maison est un avion qui n'arrête pas de décoller. Quand il atterrit, elle est contente, parce que ses oreilles vont se remplir de langues étrangères qui changeront ses neurones en corolles ouvertes. C'est sa manière à elle de recueillir la pluie pour sa soif. Le bon moment. Le froid était tombé de nulle part avec la pluie. Le reste du temps, je ne me suis pas sentie protégée. Il a suffi de peu de choses. Un bras arrondi autour de mon cou au bon moment. Un parapluie fermé, ouvert au bon moment. Un veston déposé sur mes épaules au bon moment. un veston à carreaux, rouge cette année-là. Il n'y a pas eu tant de gestes. Quelques-uns ont suffi, au bon moment. Je ne t'avais rien demandé. Ce jour-là, je n'ai pas été seule. Le reste du temps, je ne me suis pas sentie protégée. Je me suis arrangée comme j'ai pu. Je n'ai pas l'habitude des parapluies. À aucun moment de ma vie, je n'ai demandé de protection. Tu ne pouvais rien m'offrir d'autre. Le reste du temps, je te le jure, je ne me suis pas sentie protégée. Comment te faire comprendre ? Je n'avais pas peur de toi, et c'est toi que je n'ai pas aimé. Le reste du temps, je ne dis pas des choses comme ça. Depuis 20 ans, je viens de m'en rendre compte. Le reste du temps, je me demande à quoi j'ai pensé. Portrait avec chat. C'est un chat avec une tête de fille. Nul ne sait où et quand l'erreur s'est produite. Elle était faite pour être chat. Surtout le matin, quand elle n'a pas encore eu le temps de se souvenir qu'elle est une fille, elle entr'ouvre des yeux étonnés à travers les cils, elle arrondit le dos, s'étire, ouvre et rentre les griffes, l'oreille sorteuse entre les cheveux. C'est sa seule indécence. Elle met beaucoup de temps à redevenir une fille. Une fille avec des manières de chat qui se frôle et ronronne, se colle et racole, montre les dents, devient cactus et griffe. Elle a davantage peur qu'elle ne fait peur à son grand désarroi. Elle est farouche. On passe son temps à l'apprivoiser, c'est épuisant. Elle en fait voir de toutes les couleurs. C'est pour ça que ses yeux ont des iris de rechange. C'est difficile de savoir où et quand elle se mue en fille. On n'a jamais pu surprendre la transformation. Elle se déshabille en secret. Certaines personnes disent qu'elle est prude. Comme un chat, elle ne comprend que ce qu'elle veut et n'en fait qu'à sa tête. Comme une fille, elle peut facilement transformer ses yeux en lacs qui noient son visage à marée haute, comme si les lacs avaient des marées. Comme un chat, elle a le souffle court et le cœur trop pressé de battre. Mais fille ou chat, il faut la flatter de temps en temps. C'est le seul geste que les deux supportent ensemble, un no man's and cat's land. Selon moi, elle est réversible, doublée en peau de chat à l'intérieur et en peau de fille véritable à l'extérieur. C'est un chat rentré. J'aime les chats. Vous venez d'entendre un morceau de La douleur des volcans de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Francine Pelletier, Ginette Noiseux et Lorraine Pagé. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.